Alors voilà, bah c'est de ce même Dieu dont je suis venu vous parler ce matin. Hein? Quand on ouvre la Bible, on apprend des choses. Dieu nous parle. Et puis, bah, pendant les vacances, j'ai pas rangé ma Bible au placard. Et j'ai lu, puis bon, j'ai demandé au Seigneur. Vous savez, j'aime pas faire des lectures piochées comme ça un peu partout. J'aime bien me tenir à un livre. Et je le lis de A à Z en croyant que Dieu peut me parler au travers de n'importe quel livre de la Bible. Et c'est vrai. Et puis ben là, j'ai attaqué le livre de Samuel, les livres de Samuel. Et donc ce matin, ben, on va parler. Alors je vais pas prêcher comme d'habitude. Souvent, j'ai un sujet à cœur et puis je vais chercher dans la Bible tout ce qui va parler l'avis de Dieu sur ce sujet. Et aujourd'hui, c'est pas ça, c'est on va parcourir seulement des extraits, hein, parce que vous savez, il y a deux livres de Samuel, rien que la lecture, ça comblerait la demi-heure qui nous reste. Hein, donc, on va juste lire quelques endroits et je vais partager avec vous des choses qui m'ont touché et qui peuvent aussi vous toucher, je pense. Donc je vais vous partager cette nourriture que le Seigneur m'a donnée et on va gentiment, c'est repas tiré du sac, je vais enfin une agape en fait, je vais vous partager ce que j'ai reçu. Donc vous êtes venus les mains vides et bah, vous allez repartir avec quelque chose. Alors on me demandera le titre, bah, c'est quelques enseignements des livres de Samuel. Voilà. Et puis il faudra écouter pour savoir lesquels. Voilà, donc on va commencer par lire dans le premier livre de Samuel. Alors, ça ne veut pas dire que le reste, faut pas le lire. Hein. On va lire seulement des extraits. Moi, je vous encourage à tout lire. Je vais juste vous partager des choses qui m'ont plus particulièrement parlé. Donc, le premier livre de Samuel, chapitre 2, versets 22 à 29. Puis ensuite, on continuera un peu plus loin. Alors, on va faire un peu de lecture. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. On va continuer à lire un peu plus loin, chapitre 3, donc juste un chapitre juste après, versets 11 à 14. Alors Samuel a grandi depuis et Dieu s'est adressé à lui. Tout le monde connaît cette partie de la vie du jeune Samuel où il entend une voix pendant la nuit. Il va voir Élie et Élie lui dit: Mais non, je t'ai pas appelé, tu retournes te coucher. Et ça arrive trois fois. Et après ces trois fois, bah, Élie comprend que bah, c'est sûrement Dieu qui est en train d'appeler Samuel pour lui parler. Et il lui dit: Bah, écoute, maintenant, tu vas dire. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et là, Dieu va lui révéler des choses. Et voici. Alors l'Éternel dit à Samuel, Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par les sacrifices ni par les offrandes. Voilà, donc c'est ce que Dieu a révélé à Samuel. Vous imaginez ce jeune Samuel qui n'avait pas beaucoup d'expérience, hein. Il vivait là dans le temple et il a fallu qu'il dise à Élie ces paroles-là. Pas évident, hein? Une sacrée mission. Alors, quand j'ai lu ce que Dieu dit à Samuel, dit à Élie de la part de Samuel, où est-ce que c'est écrit? Il dit que il reproche à Élie que ses fils font des choses mal sans qu'il les ait réprimés. C'est ça qu'il reprochait à Élie. Pourtant, juste au chapitre avant, hein, au verset 2, Élie, il s'est adressé à ses fils. On l'a lu. Et il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire de vous n'est pas bien du tout. Donc, on dirait quand même bien qu'il leur a dit, il leur a fait des reproches. Pourtant, Dieu va lui dire, tu laisses faire. Et là, ben moi, je suis papa. Élie, c'était ses fils. Moi, ça m'a interpellé. Ça veut dire que devant Dieu, Élie, quelque part, il a une responsabilité dans ce que font ses enfants. Il est rappelé, sa responsabilité, il est rappelé, non seulement parce qu'il est leur père, mais aussi, ben, il avait un rôle important au niveau du service de l'Éternel. Et il n'était absolument pas normal que ses enfants puissent faire des choses aussi grave. Vous rendez compte? Il couchait avec des femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Mais en plus, si on va voir avant, bon, on l'a pas lu, chapitre 2, verset 12, il profanait les sacrifices qui étaient donnés. Normalement, il devait laisser les sacrifices se consumer et prendre après une partie pour eux, pour manger. Ça, c'était normal, c'était convenu. Ils devaient vivre aussi des sacrifices, mais pas se servir avant Dieu. Pas se servir avant. Et eux, ils le faisaient. Ça veut dire que, ben, ils ne prenaient pas au sérieux du tout la loi de l'Éternel. Il ne prenait pas du tout au sérieux le fonctionnement des sacrifices. Tout ce que Dieu avait instauré, ben, il n'en avait rien à faire. Il vivait dans l'indifférence la plus complète de ce que Dieu avait instauré. Et on sait tous ce que signifient ces sacrifices. C'était une préfiguration du sacrifice de Jésus, on est d'accord? Jésus, il est l'agneau qui a été donné pour une bonne fois pour toutes, pour le salut de l'humanité, pour notre salut à nous. Et il n'était pas normal qu'Élie laisse faire ses fils. Pourtant, verbalement, il leur a dit des choses, il les a réprimés. Mais il aurait sûrement fallu qu'il aille bien au-delà. Fermer la porte, les mettre dehors, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qu'il a fait était jugé insuffisant par Dieu et la sanction tombée, c'est terminé. Les péchés, le mal qui est là, ne pourra jamais être expié, donc pardonné, quel que soit ce que vous ferez. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué. Et ce qu'Élie a fait, a essayé de faire, ce n'était pas du tout à la hauteur de la gravité des péchés de ses fils. Et Dieu ne pouvait plus laisser ces choses continuer. Ça ne pouvait plus perdurer parce que c'était plus possible. Dieu est saint et il ne pouvait pas accepter que des choses aussi mauvaise, aussi sale, puisse continuer dans sa maison. Donc, aux yeux de Dieu, les fils d'Élie ne prenaient pas du tout à cœur les sacrifices. Et moi, ça m'a fait penser à ce qui est écrit dans Hébreux 10, 29. On va aller le lire. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce ? C'est ce que faisaient les fils d'Élie. C'était cette même gravité-là. Et là, on la retrouve. On la retrouve ici dans le Nouveau Testament. Moi, ça me fait peur hein, quand je lis ce verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ? Les fils d'Élie, ils foulaient aux pieds les sacrifices. Et c'est grave. Vous voyez la sanction de l'Éternel. Et de la même façon, si on foule aux pieds Jésus-Christ, c'est extrêmement grave. On sait tous qu'il y a un péché, le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne peut pas être pardonné. On n'en parle pas beaucoup dans l'Église parce que ça fait peur. Et c'est vrai que dans l'oreille de jeunes chrétiens, pas affermi, ça peut faire peur. Et je sais que Rachel, ça lui a fait peur. Elle a cru que c'était fichu pour elle. Et si jamais dans votre cœur, vous vous sentez ébranlé, que ça vous fait peur, ben demandez conseil à un ancien. Hein, parce que je ne veux pas faire peur ce matin. Mais c'est dans la Bible. Et il y a des choses auxquelles nous devons vraiment faire attention. Les choses saintes sont saintes. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec la grâce que Dieu nous a faite. Et ça, c'est important. On le voit dans l'Ancien Testament, l'attitude nette de Dieu par rapport aux deux fils d'Élie, les reproches qui ont été faits à Élie d'avoir laissé faire. Et on le retrouve aujourd'hui dans le Nouveau Testament. C'est toujours un sacrifice. Avant, c'était la préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le livre d'Hébreux, ce qu'on vient de lire, ça parle du sacrifice de Jésus-Christ lui-même. Et on sait qu'après ce sacrifice, il n'y a rien d'autre. Si on n'en veut pas, si on le bafoue, il n'y en a pas d'autre. Il n'y aura rien d'autre pour le salut, parce que Jésus est venu une fois pour toutes. Il n'y a rien d'autre. C'est le sacrifice que Dieu a prévu et il faut vraiment le prendre au sérieux. Il ne faut pas le fouler aux pieds. Et c'est pour ça que dans la Bible, à un autre endroit, il est écrit qu'il est impossible que ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu, qui ont eu part à toute la richesse de Dieu et qui sont tombés soient à nouveau relevés. Alors si on a goûté à la grâce de Dieu, si on a vraiment, on s'est approché de Dieu, ben on n'a pas le droit de retourner en arrière. On n'a pas le droit. Alors, il peut y avoir des moments où on faiblit. On peut traverser des déserts où on est découragé. Je ne parle pas de ça. Mais un retour franchement en arrière, alors qu'on a goûté, c'est un péché volontaire. Et le péché volontaire, ben c'est fini. Et ça, il faut le savoir. On ne peut pas jouer avec la grâce. Et ben, il faut rester dans les voies de Dieu. Et honnêtement, si on a vraiment goûté, est-ce qu'on a envie d'aller ailleurs? Non, non. Et pourtant, il n'y a rien qui nous y oblige. On est les plus libres individus qui soient sur toute la planète. On est d'accord? Pourtant, on est regardés comme des esclaves par le monde. Et pourtant, on est les seuls à être vraiment libres de partir. Mais quand on a vraiment goûté, il faut vraiment faire fort pour aller en arrière. On est d'accord? Hein? Mais il faut savoir, c'est très important. Et là, moi, ça a attiré mon attention. On a une responsabilité en tant que parents, alors que ce soit parents charnels comme parents spirituels. Ça veut dire que si on voit qu'il se passe n'importe quoi dans l'église, chez nos enfants, on ne doit pas rester inactif. On a une part de responsabilité. On doit avertir. Alors, je sais bien, hein, il y a avertir et avertir. Il y en a qui sont très maladroits et qui font 10 fois pire que mieux. Faisons-le avec amour, avec l'amour que Dieu donne. Avec discernement, il ne s'agit pas de condamner avec maladresse le moindre petit écart. Faisons-le avec amour, avec la sagesse que Dieu donne. Et si on sait qu'on est maladroit, bah, vaut mieux se taire et prier. La prière, elle est d'une grande efficacité. La prière est d'une grande efficacité. Mais par moments, il faut aussi parler. Mais laissons parler ceux qui savent le faire. Et prions dans notre cœur. Si on sait qu'on est maladroit, ben demandons l'adresse au Seigneur. Demandons la sagesse. Écrit dans Jacques, hein, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne. Et il va le faire. Et ça, vous voyez, ce sont des garde-fous dans notre Église. Ce sont des garde-fous pour que il n'y ait pas de dérive qui mène à la catastrophe. Les anciens ont une grande responsabilité. Ce sont eux qui paissent le troupeau de Dieu que nous sommes. Et c'est normal si de temps en temps, ils renvoient la brebis. Non, non, non. C'est normal. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il arrive à cette brebis ce qui est arrivé au fils d'Élie. Parce que c'est grave. Quand c'est terminé, si on est allé trop loin, qu'on a bafoué le sacrifice de Jésus-Christ, ben, il n'y en a pas un autre derrière. Alors on ne peut pas le gaspiller. On retient, ça c'est un enseignement qui a attiré mon attention dans Samuel. Il y en a encore un autre. On va aller lire la matière première d'abord, dans 1 Samuel, chapitre 4. Versets 1 à 11. C'est un peu la suite de l'histoire avec les deux fils, hein. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Donc là, Samuel, ben, en quelques chapitres, il est devenu beaucoup plus grand, hein. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébénézer et les Philistins campaient à Aphek. Excusez peut-être la prononciation, hein. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4 000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. On a l'accomplissement de la prophétie qui avait été prononcée auparavant. Ce qui a attiré mon attention, c'est l'attitude du peuple d'Israël. Il y a eu une bagarre, enfin un combat. Ils ont perdu. Un petit peu perdu. Alors ils ont dit: Ah, on va aller chercher l'arche. Et ça va marcher. On va gagner. Parce que ça a toujours marché. Quand l'arche était là, ça marchait. Mais ils n'ont pas dit: On va aller chercher l'Éternel. Ils ont dit: On va aller chercher l'arche. Et quand l'arche est arrivée, ils ont fait la fête, ils ont fait du rififi, du brouhaha. Ouah, l'arche est là, ça y est, on va gagner, on va y aller. Comme d'habitude, on va gagner. Au point que les Philistins, quand ils ont entendu tout ce brouhaha, ils se sont dit: Maman, 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 alors cette fois-ci, on est mal. Mais il y a le verset 9. J'ai changé de voix exprès parce qu'on ne sait pas trop qui leur a dit ça. C'est vrai, ils tombent là comme un cheveu dans la soupe, hein. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins. Qui leur a dit ça? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est la parole d'un des chefs des Philistins? Est-ce que c'est Dieu qui leur a donné cette idée, cette parole? On ne sait pas. C'est pas dit. Et je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils y sont allés. On va revenir à l'attitude du peuple d'Israël. Ils ont fait venir l'arche et ils ont fait comme si Dieu était avec eux. Et l'erreur, elle est là. Ils ont fait comme si. Comme si l'arche de Dieu avait un pouvoir magique. Comme si l'arche de Dieu sans Dieu pouvait faire quelque chose. Ils n'ont même pas consulté l'Éternel avant. Ils ne sont même pas allés voir celui qui aurait pu les sauver. Ils se sont contentés d'un objet. C'est vrai, l'arche de l'Éternel, c'était quand même quelque chose, hein. C'est vrai. Mais ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent. Si Dieu n'est pas avec eux, ça ne marchera pas. Parce que je dirais, c'est fou, hein, mais même l'ennemi ne se laisse pas avoir. Même l'ennemi sait si on fait semblant. Et vous savez, dans notre église, on peut essayer d'imiter la présence de Dieu. On peut faire du brouhaha et mettre les décibels et tout ce qu'on veut. Ben, ah, Dieu, il est au milieu de nous. Le monde ne se laisse pas avoir. On peut faire semblant, on peut faire tout ce qu'on veut. Il ne va rien se passer si on fait semblant. Ce n'est pas la peine. Et là, le peuple d'Israël, il a fait du rififi, il a fait du brouhaha. Ah, ça y est! Il y a l'arche de l'Éternel avec nous! Mais ça n'a pas marché. Parce que Dieu n'était pas avec eux. Ils ont fait semblant. Et nous, dans notre vie, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on fait semblant? J'espère que non. Alors, des moments, on traverse des déserts, je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être dur, c'est vrai, ça fait partie de notre marche spirituelle, des moments difficiles. Mais à aucun moment, Dieu n'attend de nous qu'on fasse semblant. On ne peut pas, on ne doit pas faire semblant. Parce que sinon, si on va au combat en faisant semblant, soyons sûrs qu'on va perdre. C'est évident. Parce qu'il y en a un qui fait semblant. On le sait qui c'est, hein? Le diable. Il est le spécialiste du semblant. C'est du mensonge. Il est le père du mensonge. Tout ce qui sort de lui n'est que mensonge, même quand c'est de l'imitation. Il est écrit qu'il se déguise en ange de lumière. Donc quand on fait semblant, ben on est dans la peau du personnage. On est déguisé en ange de lumière. Et vous savez, dans notre monde aujourd'hui, je ne parle pas forcément de l'Église, hein, mais ben, le diable, il est là, à beaucoup d'endroits, déguisé en ange de lumière. Et il fait semblant. Et il ne faut pas qu'on lui prête notre corps. Il ne faut pas qu'on lui prête notre bâtiment. Il faut qu'on ne lui prête rien du tout. On n'a pas à imiter quoi que ce soit. On nous demande, la Bible, Jésus, Dieu, ne nous demande que d'être vrai, d'être sincère. Tu n'as pas à faire des efforts pour montrer quelque chose dans l'Église, pour montrer quelque chose à tes frères, à tes sœurs, aux anciens, à qui que ce soit. Tu es toi-même, tu dois être vrai. Et je voudrais qu'on lise un verset, Philippiens 4, 8. Au reste, frères, pardon, je ne vous laisse pas le temps d'y aller, parce que je l'ai copié-collé, alors ça va plus vite. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et moi, j'aime bien le début. Tout ce qui est vrai. Et Dieu nous demande d'être vrai. À aucun moment, on ne doit faire semblant. Tu n'as rien à cacher. Si c'est dur, si c'est ôté au fond du gouffre, eh ben dis-le. T'as le droit. C'est pas un problème. C'est pas un problème. On y passe tous et on y passera encore. Alain, il est passé il n'y a pas longtemps, ben, il nous l'a dit. C'est pas une tare. Quand on parcourt la Bible, ben on se rend compte qu'il y a des grands hommes de Dieu qui ont connu le fond du gouffre. Et j'y ai un verset que j'aime bien dans les proverbes. Hein. Sept fois le juste tombe et il se relève. Ben ouais, on tombe, il y a des moments, ben on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Et il y a des moments, on traverse le désert. Pourquoi est-ce qu'on va faire semblant pour garder la face? On n'a pas à faire semblant. Tu vas t'user à faire semblant. Si tu es vrai et que tu es sincère, tu y gagnes. Parce que Dieu, il est de ce côté-là. Il nous demande d'être vrai, d'être sincère. Et retenons bien ce verset de 8 du chapitre 4 de Philippiens. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, c'est pas la dissimulation, c'est pas le faire semblant, c'est pas le masque, c'est rien de tout ça. C'est à l'opposé. C'est exactement à l'opposé. Donc, soyons vrais. Il n'y a pas besoin de se cacher. Soyons nous-mêmes. Et si on n'est pas parfait, Dieu va le changer. Si tu le caches, d'ailleurs, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il faut être vrai. Allez, un petit dernier point. J'ai failli pas le mettre, j'ai hésité. Bon, très rapidement. On va aller dans 2 Samuel. Donc un petit peu plus loin, chapitre 16. Verset 5. Donc on avance beaucoup plus loin dans l'histoire. Donc le peuple a demandé un roi, il y a eu Saül, ensuite Saül a été rejeté. Il y aurait plein de choses aussi à dire, hein. Et puis là, on arrive à David, et David, lui aussi, il a traversé des hauts et des bas, hein, dans sa vie. Mais il était un homme, il est dit de lui qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, quand on regarde sa vie, il y a quand même des choses qui. Mais sur le fond, il voulait vraiment faire la volonté de Dieu. Et là, on va voir un tout petit chapitre de son attitude que j'ai trouvé